Chapitre 2. Des questions de traduction. Afin de présenter la matière du livre rouge dans une langue que les gens peuvent comprendre aujourd'hui, l'ensemble du paysage linguistique a dû être traduit, dans la mesure du possible, en des termes actuels. Seules les langues étrangères au parler commun conservent leur forme d'origine, mais elles figurent essentiellement dans les noms de personnes et de lieux. Le parler commun, c'est-à-dire la langue des hobbits et celle de leurs récits, a nécessairement été transposé en anglais moderne. Le contraste entre les différentes variétés observables dans l'usage de l'occidentalien se trouve du même coup atténué. On a tenté de représenter ces variations par différents registres de l'anglais, mais l'écart entre la prononciation et l'idiome du comté d'une part, et d'autre part l'occidentalien tel que le parlaient les elfes ou les nobles du Gondor, était plus grand que ce qu'on a pu montrer dans ce livre. En fait, les hobbits parlaient pour la plupart un dialecte rustique, tandis qu'au Gondor et au Rohan, on se servait d'une langue autrement archaïque, plus soutenue et plus concise. Il convient de noter ici l'un de ces points de divergence qui, bien qu'important, s'est révélé impossible à reproduire. Par les pronoms de la deuxième personne, et souvent aussi de la troisième, la langue occidentalienne marquait une distinction, sans égard au nombre, entre des formes familières et des formes polies. Or, l'idiome du comté avait ceci de particulier que les formes polies étaient sorties de l'usage courant. On ne les entendait plus que chez les villageois, en particulier dans le quartier ouest, pour qui elles avaient valeur hypocoristique. C'est là un point qui revenait souvent quand les gens du Gondor évoquaient la tournure étrange du parler des hobbits. Pérégrin Took, par exemple, à son arrivée à Minas Tirith, s'adressait familièrement aux personnes de tout rang, y compris au seigneur Denethor lui-même. Une pratique qui pouvait amuser le vieil intendant, mais qui dut laisser ses serviteurs pantois. Nul doute que ce libre emploi des formes familières n'ait accrédité la rumeur populaire voulant que Pérégrin fût un personnage de très haut rang dans son propre pays. On remarquera que les hobbits comme Frodo et d'autres personnages comme Gandalf et Aragorn ne s'expriment pas toujours dans le même style. Ce choix est délibéré. Les hobbits les plus érudits et les plus capables n'étaient pas sans connaître la langue des livres, comme on disait dans le comté, et ils étaient prompts à saisir et à adopter le style de ceux qu'ils rencontraient. Il était, au surplus, tout à fait naturel pour les grands voyageurs de s'exprimer dans la manière des gens qu'ils se trouvaient côtoyés. Et c'était d'autant plus vrai pour les hommes qui, comme Aragorn, s'efforçaient bien souvent de cacher leurs origines et leurs desseins. Néanmoins, en ce temps-là, tous les ennemis de l'ennemi honoraient les choses anciennes, en matière de langue, comme en toute autre chose, et ils y prenaient plaisir dans la mesure de leur connaissance. Les Eldar, suprêmement doués avec les mots, maîtrisaient une variété de styles, quoique leur expression la plus naturelle fût celle qui s'approchait de leur propre langue, encore plus ancienne que celle du Gondor. Les nains s'exprimaient eux aussi avec habileté, s'adaptant aisément à leur entourage, bien que leur élocution semblât plutôt heurtée et par trop gutturale à certaines oreilles. Mais les orques et les trolls parlaient comme bon leur semblait, sans amour pour les mots ou les choses. Et leur langue était en réalité plus vile et plus ordurière que je ne l'ai montrée. Je ne crois pas qu'il s'en trouvera pour réclamer de ma part une reproduction plus fidèle, mais ce ne sont pas les exemples qui manquent. On entend encore le même langage dans la bouche de ceux qui pensent comme des orques, répétitifs et ennuyeux, pétris de haine et de mépris, et depuis trop longtemps éloignés du bien pour conserver ne serait-ce que la force expressive, sauf pour qui la puissance de l'expression est proportionnelle à la sordidité du propos. Cette démarche de traduction n'a forcément rien d'exceptionnel, puisqu'elle est inévitable pour tout récit des temps passés. Habituellement, elle s'arrête là, mais je suis allé plus loin. J'ai également traduit tous les noms occidentaliens selon leur sens. Lorsqu'apparaît dans ce livre un nom ou un titre qui semble appartenir à notre langue, cela signifie qu'il existait à l'époque un équivalent courant dans le parler commun, en plus ou au lieu de ceux en langues étrangères, le plus souvent elfiques. En règle générale, les noms occidentaliens étaient des traductions de noms plus anciens. C'est le cas de Fandeval, Bruyando, Argentine, Longuestrand, L'Ennemi, La Tour Sombre. D'autres avaient un sens différent, comme Le Mont Destin, pour Orodruin, Montagne Brûlante, ou Grand Peur, de l'anglais Mirkwood, pour Taur en Daedalus, Forêt de la Grande Peur. Quelques-uns étaient des déformations des noms elfiques, comme Lún et Brandivin, issus de Lún et Baranduin. Le choix de traduire ces noms appelle sans doute quelques explications. Conserver tous les noms sous leur forme originelle aurait, m'a-t-il semblé, eu pour effet de masquer une caractéristique essentielle de l'époque du point de vue des hobbits, point de vue que j'ai cherché le plus souvent à conserver. Le contraste entre une langue très répandue, pour eux aussi ordinaire et habituelle que l'anglais peut l'être pour nous, et les vestiges encore présents de langues beaucoup plus anciennes et plus vénérables. Si je m'étais contenté de transcrire tous les noms, ils auraient semblé tout aussi obscurs aux yeux des lecteurs modernes. Si par exemple le nom elfique Imladris et son équivalent occidentalien Carningul avaient tous deux été laissés tels quels. Mais parler d'Imladris au lieu de Fandeval reviendrait à dire Camelot au lieu de Winchester, à ceci près que, dans le premier des cas, l'identité des lieux était connue avec certitude, en dépit du fait qu'il y avait encore à Fandeval un seigneur de grand renom, bien plus vieux que ne le serait Arthur s'il régnait encore à Winchester de nos jours. Le nom du comté, Sousa, de même que tous les autres toponymes hobbits, ont donc été anglicisés. Cela s'est fait sans trop de difficultés, car leur nom était souvent composé d'éléments analogues à ceux que l'on trouve dans nos toponymes les plus simples, soit des mots encore d'usage courant, comme colline ou champ, soit des formes un peu altérées, comme en anglais « ton » au lieu de « town ». Mais, comme on l'a déjà dit, d'autres étaient issus d'anciens mots hobbits, désormais passés d'usage, lesquels sont représentés par des éléments équivalents dans notre langue. « Bourde » pour « habitation »,« courte » pour « ferme », etc. Cependant, les noms de personnes, tant des hobbits du comté que de Brie, étaient inhabituels pour l'époque, notamment la coutume qui s'était développée quelques siècles auparavant des noms patronymiques hérités de génération en génération. Ces noms de famille avaient pour la plupart une signification claire, dans la langue courante étant dérivés de surnoms plaisants, de noms de lieux ou, à Brie en particulier, de noms de plantes ou d'arbres. Traduire ces noms ne présentait guère de difficultés, mais il restait un ou deux noms plus anciens dont la signification s'est perdue, et je me suis contenté d'adapter leur orthographe. Touk pour Touk et Boffin pour Boffin, par exemple. Autant que faire se peut, j'ai suivi pour les prénoms des hobbits une démarche semblable. Les hobbits donnaient communément à leurs filles des noms de fleurs ou de pierres précieuses. À leurs garçons, ils donnaient le plus souvent des noms sans signification dans le langage courant, et certains noms de femmes étaient de cette espèce. Citons à titre d'exemple Bilbo, Bungo, Polo, Lotho, Tanta ou encore Nina. On trouve d'inévitables ressemblances avec plusieurs noms encore portés ou connus aujourd'hui. Otto, Odo, Drogo, Dora, Cora et ainsi de suite. J'ai conservé ces noms que j'ai simplement adaptés en modifiant la finale. Car dans les noms hobbits, A était une finale masculine, tandis que les finales en O et en E étaient féminines. Cependant, dans certaines familles anciennes, en particulier celles d'origine Poblème, comme les Touk et les Bolger, on avait coutume de donner des prénoms grandiloquents. La plupart étaient vraisemblablement tirés de légendes du passé, autant des hommes que des hobbits. Et si bon nombre d'entre eux ne signifiaient plus rien pour les hobbits, ils ressemblaient néanmoins aux noms des hommes de la vallée de l'Anduin, du Val ou de la Marche. Aussi les ai-je rendus par ces vieux noms, principalement d'origine franque et gothique, que l'on trouve encore chez nous ou qui figurent dans nos livres d'histoire. Ainsi, j'ai pu au moins préserver le contraste souvent amusant entre prénoms et noms de famille dont les hobbits eux-mêmes étaient bien conscients. Très peu de noms sont issus des langues classiques, car les plus proches équivalents du latin et du grec, dans la tradition du comté, étaient les langues elfiques qui figuraient rarement dans la nomenclature hobbit. Les hobbits ne furent jamais nombreux à connaître les langues des rois, comme ils les appelaient. Les noms des Boucherons différaient de ceux du reste du comté. Les gens de la Marèche et leurs parents, ayant traversé le Brandivin, se distinguaient de plusieurs manières, comme on l'a raconté. Nul doute que c'est de l'ancienne langue des Fortaux du Sud qu'ils tenaient bon nombre de leurs noms excessivement étranges. J'ai choisi le plus souvent de les conserver tels quels, car s'ils semblent bizarres aujourd'hui, ils l'étaient tout autant à l'époque. Ils avaient une consonance que l'on pourrait vaguement qualifier de celtique. Ainsi, les traces résiduelles de l'ancienne langue des Fortaux et des hommes de Brie, rappelant la survivance d'éléments celtiques en Angleterre, j'ai parfois cherché à reproduire ces derniers dans ma traduction. Brie, Combe, Archette et le bois de Chette s'inspirent donc de ces reliques de la nomenclature anglaise, choisies en fonction du sens. Brie signifie colline et Chette signifie bois. Quant au prénom, un seul a été modifié de cette manière. J'ai choisi Meriadoc parce que le diminutif de ce personnage, Cali, signifiait jovial, gai. Mais il s'agissait en réalité d'une abréviation de Calimac, un nom du pays de Bouc, désormais sans signification. Je ne me suis servi dans mes transpositions d'aucun nom d'origine hébraïque ou de semblable provenance. Il n'est rien dans les noms hobbits qui correspondent à cette composante de nos noms. Les diminutifs tels que Sam, Tom, Tim, Matt sont des abréviations courantes de noms hobbits tout à fait originaux, comme Tomba, Tolma, Mata et autres. Mais Sam et son père Ham se nommaient en réalité Ban et Ran. C'étaient là les diminutifs de Banazir et Ranugad, qui, à l'origine, étaient des surnoms, lesquels signifiaient respectivement Midégourdi Bene et Casanier. Mais ces mots n'étant plus d'usage courant, ils étaient restés comme prénoms traditionnels dans certaines familles. J'ai donc tenté de conserver ces qualités en proposant Sam Saget, Samwise en anglais, et Hamfast, forme modernisée de l'ancien anglais Samwis et Hamfast, de sens très voisins. Parvenu aussi loin dans mes efforts pour moderniser la langue et les noms des hobbits et leur donner un air de familiarité, j'ai été entraîné dans une nouvelle démarche. Les langues des hommes, apparentées à l'occidentalien, devaient, à mon sens, être rendues par des formes apparentées à l'anglais. J'ai donc transposé la langue du Rohan pour la rapprocher de l'ancien anglais, étant donné sa parenté, relativement lointaine, avec le parler commun, son rapport, très proche, avec l'ancienne langue des Hobbits du Nord, et son caractère archaïque par comparaison à l'occidentalien. Dans le Livre Rouge, il est maintes fois rapporté que les Hobbits, au contact de la langue du Rohan, reconnaissaient de nombreux mots et voyaient là une langue assez proche de la leur. Ainsi, il paraissait absurde de laisser sous une forme tout à fait étrangère les noms et les mots des Rohirrim préservés dans les chroniques. J'ai choisi de moderniser la forme et la graphie des toponymes du Rohan dans un certain nombre de cas, comme pour Dunhart. Mais ce choix n'est pas systématique, car j'ai suivi l'exemple des Hobbits. Ils modifiaient les noms qu'ils entendaient de la même manière lorsque ces noms étaient composés d'éléments qu'ils reconnaissaient ou ressemblaient à des toponymes du comté. Mais il en est d'autres auxquels il ne touchait pas, et j'ai fait la même chose comme pour Edoras, les Clos. Pour les mêmes raisons, quelques noms de personnes ont été modernisés, dont celui de Langue de Serpent. Cette démarche linguistique ne suppose pas que les Rohirrim aient été spécialement proches des anciens anglo-saxons à d'autres égards, que ce soit par la culture ou l'art, les armes ou les méthodes de guerre, sinon d'une manière très générale attribuable aux circonstances de leur milieu. Celle d'un peuple plus primitif à l'existence relativement simple, vivant au contact d'une culture plus noble et plus vénérable sur des terres jadis comprises dans son domaine. Cette assimilation permet aussi de représenter les vocables régionaux spécifiques aux Hobbits, originaires des parlers du Nord. Je leur ai donné des formes qu'auraient pu prendre, s'ils avaient survécu jusqu'à nos jours, des mots désuets de la langue anglaise. Ainsi, « mathom » est à l'ancien anglais « mathm », ce que le véritable mot « hobbit »,« caste », est au « castou » de la langue du Rohan. De même, « smiol » ou « smile », prononcé à l'anglaise, « terrier », est un descendant plausible de l'ancien mot « smigel », ce qui représente bien la relation qui existait entre le mot « hobbit »,« tran », et celui du Rohan, « trahan ». Smiagol et Deagol sont des équivalents inventés selon le même principe pour les noms « trahald », chose qui fuit, se faufile, et Nahald, secret des langues du Nord. La langue du Val, plus septentrionale encore, n'apparaît au cours du récit que dans les noms des nains originaires de cette région et donc locuteurs de la langue des hommes qui y vivaient, d'où leur nom extérieur choisi dans cette langue. Notons que dans la version anglaise du présent livre, comme dans le Hobbit, c'est la forme dwarves qui est utilisée pour nains, bien que les dictionnaires nous disent que le pluriel de dwarf est dwarfs. Ce serait plutôt dwarrows ou dwerrows si le singulier et le pluriel avaient chacun suivi leur propre voie au cours des années, comme c'est le cas de man et men, homme, ou goose et geese, oie. Mais l'on ne parle plus aussi souvent des nains que l'on parle des hommes, ou même des oies, et les hommes n'ont pas eu la mémoire assez fidèle pour que l'usage consacre un pluriel spécial à une race désormais abandonnée aux contes populaires, où subsiste néanmoins une parcelle de vérité, et enfin aux histoires sans queue ni tête, où ils font figure de simples bouffons. Mais au troisième âge, s'entrevoit encore une part de leur caractère et de leur pouvoir d'antan, encore que déjà un peu pâli. Les descendants des Nogrim, en qui brûle encore la flamme ancienne d'Oleil le forgeron, et couvre les braises d'une longue rancune contre les elfes, et en les mains desquels survit un don pour le travail de la pierre que nul n'a jamais égalé. C'est pour dénoter cela que je me suis hasardé à employer la forme dwarves, afin de les distancer un peu, je l'espère, des histoires parfois grotesques que l'on entend de nos jours. Dwarrows eût été préférable, mais je ne m'en suis servi que dans l'appellation creusée des nains, Dwarrow Delph, qui représente le nom de la Moria dans le parler commun, Furunargian. Ce nom signifiait en effet « excavation des nains », mais il s'agissait déjà d'un mot de forme ancienne. Moria, par ailleurs, est d'origine elfique, et c'est un nom peu élogieux. Car si les Eldar ont parfois été contraints, au cours de leur terrible guerre contre le pouvoir sombre et ses serviteurs, de bâtir des forteresses souterraines, ils ne choisissaient pas volontiers d'y vivre. Ils aimaient la terre verdoyante et les lumières des cieux, et Moria, dans leur langue, signifie « gouffre noir ». Mais le nom donné par les nains eux-mêmes, et qui tout au moins ne fut jamais gardé secret, était Khazad-dûm, le palais des Khazad. Car tel est le nom qu'ils se donnent eux-mêmes en tant que peuple, et ce depuis qu'Oleil le leur a donné au moment de leur création, dans les profondeurs du temps. Elf traduit à la fois Kendi, les parlants, nom haut elfique de toute leur espèce, et Eldar, le nom des trois peuples qui cherchèrent à gagner le royaume immortel et qui y parvinrent au commencement des jours, tous sauf les Sindar. Ce mot ancien, en réalité le seul qui pouvait convenir, avait déjà servi à désigner le souvenir qui restait de ce peuple dans la mémoire des hommes, ou ce que leur imagination avait inventé de plus approchant. Mais ce mot s'est dégradé, et pour beaucoup, il n'évoque plus que des esprits mignons ou ridicules, aussi éloignés des Kendi d'autrefois que le papillon du vif faucon. Non qu'aucun des Kendi ait jamais eu des ailes au sens corporel, chose tout aussi étrangère à leur nature qu'elle ne l'est à celle des hommes. C'était une belle et noble race, les aînés des enfants du monde. Et parmi eux, les Eldar étaient comme des rois qui maintenant sont partis. Les gens du grand voyage, le peuple des étoiles. Ils étaient grands, au teint clair et aux yeux gris, mais leur chevelure était sombre, sauf dans la maison dorée de Finalfin. Et leur voix était plus richement mélodieuse qu'aucune voix mortelle entendue de nos jours. Ils étaient vaillants, mais l'histoire de ceux qui revinrent s'exiler en terre du milieu fut tragique. Et bien qu'il ait croisé le destin des pères, autant jadis, leur destin n'est pas celui des hommes. Leur suprématie est passée depuis bien longtemps, et ils vivent désormais au-delà des cercles du monde et ne reviennent pas. Note portant sur trois noms: Hobbit, Gamgi et Brandivin. Hobbit est un mot inventé. En occidentalien, les rares fois où l'on faisait allusion à ces gens, le mot était Banakil, demi-homme. Mais au temps du récit, les gens du comté et de Brie se servaient du mot Kuduk, qui ne se disait nulle part ailleurs. Or, selon ce que rapporte Meriadoc, le roi du Rohan employait le terme Kud Dukan, habitant de Trou. Étant donné que les hobbits, comme on l'a vu, parlaient par le passé une langue fort apparentée à celle des Rohirrim, il semble probable que Kudukh ait été une déformation de Kud Dukan. Pour les raisons précédemment mentionnées, j'ai choisi de rendre ce dernier terme par Olbitla, et hobbit pourrait très bien passer pour une déformation de Olbitla si ce nom avait existé autrefois dans notre langue. Gamgi. Selon la tradition familiale exposée dans le Livre Rouge, le nom de famille Galbassi, ou par réduction Galpsi, était issu du village de Galabas, nom généralement compris comme un composé de Galab, gibier, et de l'élément archaïque Bas, plus ou moins équivalent à l'anglais Wick, Witch. Gamwich, prononcé Gamidge, semblait donc un bon équivalent. Mais en réduisant Gamidji à Gamji, pour représenter Galpsi, je ne faisais aucunement allusion aux relations qu'entretenait Samsaget avec la famille Casbonne, Cotton. Encore que l'esprit hobbit n'eût pas dédaigné semblable plaisanterie, au contraire, si le calembour s'était présenté dans leur langue. En anglais, Gamji est un mot de la langue familière pour désigner un tampon d'ouate, d'où le rapprochement avec le nom Cotton, qui rappelle la matière textile. Cotton, en fait, représente Lothran, un nom de village plutôt répandu dans le comté, composé de Loth, trou ou habitation de deux pièces, et Ran, qui désigne un petit groupe de ces habitations juchées à flanc de colline. Comme nom de famille, il s'agit peut-être d'une déformation de Lothram, habitant d'une maison de campagne. Lothram, rendu par Casenier, était le nom du grand-père du fermier Casbonne. Brandivin. Les noms hobbits de ce cours d'eau étaient des déformations de l'elfique Baranduin, accent tonique sur le hand, dérivé de Baran, brun doré, et Duin, grande rivière. Brandivin, pour Baranduin, semble de nos jours une déformation assez plausible. En réalité, l'ancien nom hobbit était Brandanin, eau frontalière, dont une traduction plus fidèle eût été Bournemarche. Mais par suite d'une plaisanterie qui finit par passer dans l'usage, là encore par allusion à sa couleur, le nom du fleuve était devenu, à l'époque qui nous concerne, Braldahim, bière capiteuse. Il faut toutefois remarquer que lorsque les vieilles boucs, Zaragamba, prirent le nom de Brandibouc, Brandagamba, le premier élément signifiait « pays frontalier ». Marchebouc eût donc été plus exact. Seul un hobbit des plus hardis aurait osé affubler le maître du pays de Bouc du nom de Braldagamba en sa présence.
Merci et à bientôt chez Audible.